Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous choisissez de m'écouter en podcast. Tout à l'heure, nous allons présenter le MOOC Connexion citoyenne, une formation en ligne proposée par CFI, l'agence de développement des médias destinée à la jeunesse africaine. Mais d'abord, je vais passer un coup de téléphone à un chercheur français qui s'est penché sur une opération d'influence informationnelle russe en Centrafrique, plus spécifiquement sur le cas de Lengo Songo, l'une des principales radios de Bangui. Bonjour Maxime Audinet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, à Paris. Sur le site de la revue des médias, de l'INA, vous co-signez un article intitulé « En Centrafrique, la Russie externalise son influence médiatique ». Alors un peu de contexte tout d'abord. Fin octobre, cela fera pile 5 ans que l'opération militaire française Sangaris aura pris fin en République centrafricaine. Fin 2017, un an après le départ des soldats français, des instructeurs russes sont arrivés à la demande du président Touadéra et avec l'aval de l'ONU. Et depuis, eh bien, il y a des sociétés militaires privées russes comme Seva Security Services, branche locale de Wagner, qui ont plusieurs centaines d'hommes déployés sur le terrain, encore une fois à la demande du gouvernement de Bangui. Mais la présence russe se fait aussi ressentir dans les médias. C'est un de vos sujets de recherche, Maxime Audinet, et notamment vous êtes penché donc sur le cas de cette radio, Lengo Songo, qui est devenue la radio des Russes. C'est en tout cas comme ça que certains l'appellent maintenant à Bangui. Expliquez-nous ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement avec cette radio.
Alors en fait, c'est une radio qui a été effectivement mise en place en 2018, donc quelques mois après l'arrivée des acteurs russes. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier en fait comment cette radio, qui est une radio centrafricaine, dans un contexte aussi où les radios en Centrafrique fonctionnent sur un système de mécénat, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart financées par des acteurs extérieurs, souvent étrangers, pour justement contribuer à leur fonctionnement. Eh bien, ce qui m'intéressait, c'est d'observer comment, parallèlement à cette présence russe accrue dans le pays, les acteurs russes avaient aussi infiltré en fait ce paysage médiatique fragile qui est le paysage médiatique centrafricain pour justement y financer un certain nombre d'instruments dont et le principal est Radio Lengo Songo, donc cette radio qui est installée à Bangui et qui émet dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Bangui. Donc j'ai cherché en fait à étudier à la fois qui finançait cette radio, c'est-à-dire en fait la compagnie d'extraction minière Lobay Invest, qui est liée au réseau de Yevgeny Prigogine, cet homme d'affaires et entrepreneur d'influence, comme on dit, qui est un des acteurs clés de l'influence russe en Russie. Et puis surtout, parce que ça avait été déjà assez bien documenté, ce qui m'intéressait, c'est de voir quels étaient les contenus de cette radio. Et on va sans doute en parler.
Alors justement, la méthodologie que vous avez adoptée, c'est une analyse sémantique des articles publiés sur le site de la radio entre février 2020 et juin 2021. Et ce que vous avez observé, c'est un basculement éditorial à partir de février 2021.
Tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé en fait les 439 articles qui avaient été publiés sur le site de Lengo Songo, et on a observé en fait quels étaient les grands thèmes, ce qu'on appelle les thèmes lexicaux, les mondes lexicaux qui ressortaient en fait de ces contenus. Et effectivement, ce qu'on observe après finalement les élections de fin décembre 2020 et puis aussi l'offensive rebelle contre Bangui et la contre-offensive menée par les FACA aux côtés des alliés russes, comme ils sont d'ailleurs toujours qualifiés sur Lengo Songo, eh bien, on a observé en fait un moment de blackout au mois de janvier. Aucun article n'est publié. Et à partir de février et tout au cours du printemps, on observe effectivement des contenus qui sont beaucoup plus éditorialisés, beaucoup plus ostensiblement favorables à la fois au gouvernement centrafricain, mais aussi bien sûr à la présence russe, avec une tentative de légitimer ce que font donc les instructeurs russes, comme ils sont appelés, donc les mercenaires du groupe Wagner pour la plupart. Et puis, parallèlement à ça, une sorte de contre-offensive médiatique très forte contre la présence française, un petit peu sous toutes ses formes, et notamment contre justement RFI après la publication d'une enquête qui révélait tout à fait les exactions en fait du groupe Wagner parallèlement justement à cette contre-offensive contre les groupes rebelles. Et donc on a observé une poche d'articles, d'une vingtaine d'articles à peu près, qui sont très ouvertement hostiles à RFI, qui est présenté comme la propagande néocoloniale de la France, et puis toute une série d'articles qui visent à déconstruire d'ailleurs via des acteurs russes qui sont présents sur place, je pense par exemple à Maxime Chougaliei ou Alexandre Ivanov, à déconstruire en fait ce discours de RFI en le présentant comme de la désinformation.
Donc en gros, ce que je comprends bien, c'est que ce média, dans ses choix éditoriaux, a complètement évolué presque du jour au lendemain pour devenir vraiment favorable à la présence russe, profondément anti-français, discréditer les médias internationaux du type RFI. Ce que j'aurais envie de vous poser comme question, c'est que on parle souvent du soft power des grandes puissances internationales, qu'elles soient américaines, françaises, chinoises ou aussi russes, évidemment. Le soft power, donc le fait d'avoir des médias internationaux, le fait d'agir dans le milieu de la culture. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les médias. On sait que la Russie a des médias internationaux comme la télévision RT, Russia Today, le média en ligne Sputnik. Ces deux médias-là ne suffisaient pas. Il fallait donc que les Russes prennent possession d'un média local à Bangui?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, il faut juste comprendre que l'influence russe n'est pas un monolithe, c'est pas un ensemble parfaitement coordonné, très vertical, contrôlé depuis le Kremlin. C'est en fait plusieurs types d'acteurs qui agissent à plusieurs niveaux. On essaie de parler de spectre en fait de l'influence informationnelle, parce que vous avez toute une série de pratiques qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins confidentielles en fait, plus ou moins assumées, qui vont être déployées à différents échelons. Donc l'échelle de RT et de Sputnik, c'est vraiment, alors si on prend même uniquement leur canaux francophones, c'est une chaîne qui s'exprime vraiment à toutes les audiences francophones et surtout en fait, surtout en Europe et a fortiori en France. Aujourd'hui, on voit que des médias comme RT et Sputnik, c'est entre 75 et 80% de leurs audiences viennent de France, et les audiences qui viennent d'Afrique subsaharienne sont encore très limitées. On est à 1% maximum pour RT France et 3% pour Sputnik France. Donc ça, voilà, c'est si vous voulez, l'échelle la plus ouverte, la plus élevée. Et ensuite, vous avez d'autres acteurs qui d'ailleurs ne sont pas des acteurs étatiques, parce que Radio Lingo Songo, c'est une radio qui est financée par un acteur russe privé, même si bien entendu, c'est le principe de l'entrepreneuriat d'influence mené par Prigogine, ce sont des acteurs qui accompagnent d'une certaine manière l'agenda officiel de la Russie en Afrique subsaharienne, mais ce sont aussi des acteurs qui ont leurs propres intérêts, en l'occurrence par exemple légitimer la présence de ces mercenaires russes, même s'ils ne sont jamais qualifiés en tant que tels sur Lingo Songo, pour si vous voulez cautionner cette présence russe qui comme on le sait bien n'est pas en tout cas principalement une présence étatique. Donc le fait d'avoir des acteurs qui agissent à plusieurs échelons, et d'ailleurs la Russie n'est pas du tout le seul acteur à le faire évidemment, mais n'est pas en soi contradictoire, c'est-à-dire que ça permet tout simplement d'agir à différents niveaux, et dans le cas de Lingo Songo, on est probablement dans le niveau le plus ciblé en fait, puisque faire de la sous-traitance médiatique comme c'est le cas ici, ça permet tout simplement de mieux cibler les audiences centrafricaines, puisque ce sont des journalistes centrafricains qui diffusent en premier lieu ces contenus, et ça permet en même temps de diluer la responsabilité directe de la Russie, puisque c'est une radio centrafricaine, ce qui est d'ailleurs un mode opératoire qu'on observe aussi dans le cadre de Wagner, c'est-à-dire ce qu'on appelle le démenti plausible. Ce sont des acteurs non étatiques et ça permet tout simplement à l'État ou à la puissance publique russe de ne pas engager directement sa responsabilité. Voilà essentiellement les deux raisons.
Selon le service russophone de la BBC, pour Lingo Songo, il a fallu un investissement de seulement 10 000 dollars pour justement faire évoluer la ligne éditoriale de ce média. On se rend donc compte que l'écosystème médiatique est vraiment fragile en Centrafrique si un investissement si petit peut faire basculer les choses.
Tout à fait, je pense que là où effectivement des médias comme RT et Sputnik France coûtent des millions d'euros chaque année à l'État russe, là où on est sur un phénomène beaucoup plus localisé, beaucoup plus restreint. Alors, je ne connais pas personnellement le budget de Lengosongo. C'est vrai que cette information de la BBC, du service russe de la BBC, avait été présentée au début, donc au moment du lancement. Donc, c'était vraiment un investissement de départ. C'est très compliqué aujourd'hui de dire si les gens qui travaillent chez Lengosongo sont salariés, ou alors s'ils sont payés à la pige, ou si c'est un fonctionnement beaucoup plus opportuniste où un acteur va, qu'il soit d'ailleurs russe ou centrafricain, va financer ponctuellement un journaliste pour qu'il produise un article qui aille dans son sens ou qui aille dénigrer celui de l'adversaire. C'est très compliqué de le dire. Mais effectivement, on est sur une échelle budgétaire qui est beaucoup moins importante que, évidemment, les grands médias internationaux. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, pour rejoindre votre question précédente, c'est que mieux installer RT et Sputnik en Afrique, ça implique aussi des investissements considérables, ne serait-ce que pour ouvrir un nouveau bureau de correspondance, par exemple, ou pour rémunérer des journalistes africains qui seraient présents sur place. Et donc, effectivement, même si, encore une fois, tout ça n'est pas coordonné, mais effectivement passé par des acteurs comme Lengosongo ou comme d'autres types de pratiques, parce qu'il y a aussi toute une série de, par exemple, de pratiques d'usines à trolls qui sont parfois aussi sous-traitées, comme ça a été le cas par exemple au Ghana, et qui vont participer à cet effort d'influence et de désinformation au profit de la Russie. Donc il y a d'autres types d'acteurs qui sont aussi des acteurs non étatiques. Mais voilà, encore une fois, les budgets sont très différents, et là, en l'occurrence, c'est vraiment faire de l'influence à moindre frais.
Vous dites aussi qu'en Centrafrique, un journal, Jondi Sango, est en train de devenir le corollaire version papier de Lengosongo, et donc il partage des équipes, une ligne éditoriale commune, etc. Y a-t-il ce qui se passe en Centrafrique avec Lengosongo, est-il symptomatique de quelque chose, et est-ce que la Russie essaye de reproduire la même chose dans d'autres pays du Sahel ou d'Afrique subsaharienne, à votre connaissance?
Alors, c'est un petit peu la grande question du moment. Effectivement, cet effort d'infiltration de paysages médiatiques précaires, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la Centrafrique. Et d'ailleurs, si on regarde l'influence russe dans son ensemble, et depuis d'ailleurs extrêmement longtemps, vous avez eu le même type de processus avec évidemment des échelles très différentes, mais par exemple dans l'espace post-soviétique, avec de très nombreux médias russophones ou des filiales de, par exemple, de grandes chaînes d'État qui étaient présentes en Ukraine, qui sont d'ailleurs toujours présentes, par exemple, au Bélarus. Donc, vous avez ce processus, finalement, d'implantation dans des paysages médiatiques locaux, voire d'externalisation auprès d'acteurs nationaux à l'étranger. Il n'est pas propre, effectivement, à la Centrafrique. Alors, maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça va, effectivement, s'étendre à d'autres zones de la même manière que le groupe Wagner lui-même a été présent avant la Centrafrique, a été présent au Soudan, en Libye, et puis avant en Syrie et en Ukraine. Est-ce que de même on va observer si d'aventure le groupe Wagner s'implante au Mali, une prolongation de ses pratiques informationnelles dans le paysage médiatique malien? Je peux pas l'anticiper, et puis ça nécessite de faire du terrain au Mali, ce qui n'est pas mon cas, mais ça serait un beau projet. Mais oui, certainement, il va y avoir un renforcement des acteurs russes dans l'espace informationnel malien. On a déjà vu d'ailleurs ces dernières semaines qu'un acteur comme Alexandre Ivanov, qui se présente comme le chef d'une officine qui a vocation à légitimer le groupe, enfin les instructeurs russes en Centrafrique, et qu'on a vu d'ailleurs récemment, je crois que c'était avant-hier, à l'Assemblée nationale à Bangui, eh bien, ce personnage a donné un entretien à Mali Actu, qui est l'un des principaux sites d'information au Mali, pour justement expliquer ce qu'il avait fait, enfin, ce que les instructeurs russes avaient fait avant en Centrafrique, et pour en fait, si vous voulez, faire rentrer ce discours de légitimation des acteurs russes dans le paysage médiatique malien. Donc c'est un signe, c'est une sorte de signe avant-coureur. Pour l'instant, on n'a aucune preuve d'un média malien qui serait sponsorisé et financé entièrement par des acteurs russes, comme c'est le cas de Lengosongo en Centrafrique. Mais effectivement, on peut imaginer, compte tenu aussi de la fragilité de l'espace médiatique malien que de telles pratiques vont être en fait répliquées dans le pays.
Merci beaucoup Maxime Audinet.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, à Paris, spécialiste de la politique d'influence russe contemporaine. Et j'invite les auditeurs de l'Atelier des médias à lire l'article que vous avez publié il y a quelques jours sur le site La Revue des médias de l'INA, intitulé « En Centrafrique, la Russie externalise son influence médiatique ». À bientôt.
Merci, à bientôt.
L'atelier des médias.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, radio française de service public international. On va maintenant se pencher sur un projet de coopération proposé par CFI. L'Agence française de développement des médias s'appuie sur la puissance des outils numériques pour encourager l'émergence de projets citoyens dans les pays du Sud. CFI lance la deuxième édition de son MOOC Connexion citoyenne, destiné à la jeunesse africaine. Par MOOC, comprenez une formation gratuite en ligne pour apprendre des choses. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sinatou Saka. Salut Sinatou.
Bonjour Steven.
Tu es journaliste à France Média Monde. Tu es l'un des visages de ce MOOC avec Imed Ben Sayed, journaliste de France 24. En 2020, 5200 personnes s'étaient inscrites à la première édition de ce MOOC. C'était énorme. Là, la deuxième édition porte spécifiquement sur contribuer au travers des usages numériques à la participation citoyenne de la jeunesse et au contrôle citoyen de l'action publique en Afrique. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors concrètement, ça veut dire qu'on a 30 capsules vidéo qui portent sur différentes thématiques. Ça parle de la santé, ça parle de la ville, ça parle aussi de la gestion collective d'une communauté rurale, par exemple. Et donc, on a des experts qui vont, à travers ces vidéos, donner des conseils, permettre aussi aux gens de pouvoir monter des projets et de pouvoir aussi trouver des modèles économiques qui soient pertinents.
Voilà. Alors très concrètement, par exemple, des modules vidéo parlent de quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on voit dans un module vidéo ? Combien de temps ça dure ?
En général, les modules, c'est une dizaine de minutes à peu près. L'expert en question, je pense par exemple à Senomen Kofi Abodjinou, va parler des enjeux autour de la civic tech sur la transformation des villes africaines. Sherfal va parler de son projet autour des enjeux de santé. Donc l'idée, c'est de partir souvent d'un projet qui a été mis en place, d'expliquer comment il a été mis en place et de donner des conseils très très concrets pour permettre aux gens qui souhaitent s'en inspirer de pouvoir le faire de manière rapide et efficace.
Donc les gens s'inscrivent, ils ont accès à une plateforme dédiée où on trouve ces fameux modules. Il y a également un groupe Facebook qui est créé pour échanger. L'idée, c'est de créer une communauté.
Oui, alors juste pour revenir sur le MOOC, il faut savoir qu'évidemment, il y a des quiz à la fin. Il y a aussi un forum de discussion qui est intégré sur la plateforme, donc connexion-citoyenne.com. Et puis à côté, il y a toute cette communauté, donc Civic Tech, qui s'est développée grâce à un groupe Facebook et qui va aussi permettre aux différents porteurs de projets de s'entraider, de pouvoir mettre en avant aussi leurs initiatives, de pouvoir se motiver, de pouvoir s'encourager tous ensemble.
Alors, le premier MOOC, à l'issue du premier MOOC, il y avait une sélection d'un certain nombre de porteurs de projets innovants, 25 je crois, âgés de 18 à 35 ans, qui avaient du coup pu bénéficier d'un programme d'incubation, c'est-à-dire d'un accompagnement personnalisé de leur projet, soit pour qu'ils voient le jour ou pour qu'ils prennent une autre dimension. Et là, vous allez faire la même chose.
C'est ça. Là, en fait, à la fin donc, des 3 mois hein, de MOOC, le MOOC s'est ouvert déjà le 11 octobre et donc va se poursuivre jusqu'à mi-janvier. Donc le 11 janvier 2022 précisément, il y aura un appel à projet pour bénéficier donc de ce programme d'incubation qui leur fournira pendant 8 mois un programme, un accompagnement donc personnalisé dans le développement de leur projet civic tech.
Pour l'atelier des médias, plusieurs bénéficiaires du programme d'incubation ont raconté en note vocale WhatsApp ce que ça leur avait apporté. On les écoute.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de l'émission Atelier des médias de RFI. Je suis Habib Hadi du Niger, porteur du projet innovant et engagé intitulé Civic Tech 227.
Bonjour, moi c'est Mariam Yacoub Mohamed du Tchad, de formation ingénieur de conception en télécommunications et réseaux.
Bonjour, je suis Basile Drago, burkinabé résident actuellement à Dakar au Sénégal.
Je suis Solange Chagayou depuis la République démocratique du Congo, plus précisément depuis la ville de Bukavu.
Je réponds au nom d'Emmanuel Gancet, responsable communication de l'Association des blogueurs du Pénin.
Bonjour, moi c'est Rukia Toussedro, je viens du Burkina Faso et je suis actuellement assistante de production audiovisuelle. Le MOOC 1, donc de la connexion citoyenne 2, ça m'a permis de mieux avancer sur mon projet, de mieux peaufiner le plan d'action et même de mieux écrire mon plan d'action parce que je n'avais pas vraiment ça, je n'avais aucune idée de comment est-ce que je devais m'y prendre pour la réalisation.
Sur le MOOC connexion citoyenne 2, m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de découvrir vraiment une autre façon de travailler, ça m'a permis de découvrir vraiment tout un outil du travail, voilà, qui sont les civilités qui sont assez larges. Et vraiment, je recommande vraiment à tout jeune vraiment qui a envie vraiment de s'engager dans la citoyenneté.
Pendant la période du MOOC, j'ai beaucoup appris, notamment comment mobiliser une équipe autour de son projet, comment gérer le risque, comment élaborer son modèle économique. Il faut reconnaître que le contenu du MOOC Connexion Citoyenne 2 sont impeccables.
Donc ça a vraiment été quelque chose de bénéfique pour moi qui a permis à ce qu'aujourd'hui mon projet soit très bien lancé, que le site web soit sur le point d'être lancé également avec le logo. Donc, je peux dire que ça a été très bénéfique et j'attends vivement la deuxième activité, c'est-à-dire le hackathon, pour vraiment, vraiment, vraiment voir comment est-ce que je peux encore améliorer le projet-là.
Sinatou Saka, ces modules de formation en ligne, c'est bien, mais l'idée aussi, je pense, c'est de se voir en vrai, maintenant que le Covid-19 est en train vraisemblablement de nous laisser un petit peu de répit. Donc l'idée, c'est qu'il y aura des rendez-vous aussi physiques pour ceux qui seront sélectionnés.
Oui, je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais en tout cas, il y a un forum Civic Tech qui se prépare en 2022 dans une capitale africaine. On aura l'occasion de s'en reparler peut-être ici, mais l'idée, effectivement, c'est de quitter le virtuel et de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie, comme tu l'as dit, pour ensuite voir quelles sont les synergies possibles et avec cette idée de toujours favoriser l'action citoyenne en Afrique francophone de manière générale.
En tout cas, on se rend compte que les premiers bénéficiaires en avaient l'air super contents. Concrètement, maintenant qu'on a dit ça, pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, ceux qui nous écoutent là sur RFI, comment ça se passe et où ça se passe ?
Rendez-vous sur connexion-citoyenne.com. Normalement, toutes les infos sont présentes. Prenez le temps de vraiment regarder les vidéos. Je pense que c'est hyper important. La particularité de cette année, c'est que toutes les vidéos sont disponibles déjà d'un coup, alors que l'année dernière, c'était semaine après semaine. Donc, vous pouvez aller à votre rythme. Et puis, à la fin, évidemment, il y a une attestation de réussite qui peut aussi vous motiver.
Connexion-citoyenne, les deux mots au pluriel, .com pour toutes les infos. Merci beaucoup, Sinatou Saka.
Merci, Steven.
Journaliste à France Média Monde pour nous parler de ce MOOC de CFI, l'Agence française de développement média. À bientôt, Sinatou.
À bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Monde Blog Audio, qui fait entendre la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, il est question du problème des délestages, ces coupures d'électricité qui compliquent la vie des citoyens dans de nombreux pays sur le continent africain. Boukari Ouédraogo, blogueur burkinabé, se demande pourquoi l'Afrique n'investit pas dans l'énergie solaire, alors que le soleil ne manque pas sur le continent.
Combien de Burkinabés sont vraiment satisfaits des services de la Société nationale burkinabé d'électricité ? Mieux vaut ne pas compter. Ça prendrait trop de temps. Comme dans d'autres pays africains, le Burkina Faso vit depuis des années avec les problèmes de délestage électrique qui nous plongent dans l'obscurité. Coupure de courant incessante, couverture limitée aux grandes villes, coût élevé, voici comment résumer l'électricité en Afrique aujourd'hui. Nous sommes 650 millions à n'avoir toujours pas accès à l'électricité. Cela représente plus d'un Africain sur deux. Pourtant, avec les 45 degrés à l'ombre que les Burkinabés supportent pendant les périodes chaudes, nos problèmes d'énergie pourraient être facilement résolus. Le continent dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie solaire. Mais force est de constater que cette énergie renouvelable est encore très largement sous-exploitée. En plus, l'énergie solaire, c'est cadeau. Mais bon, l'État n'agit pas vraiment pour encourager les Burkinabés à acheter des plaques solaires pour devenir autonomes en énergie. Ça reste cher. C'est comme si le monopole de la Sonabel, la Société nationale d'électricité, semblait toujours prioritaire. Dans les campagnes, il y a encore peu de temps, certains fonctionnaires qui ont les moyens utilisaient des plaques solaires presque en cachette. Les autres sont restés pendant des années avec des lampes à pétrole. Mais le Burkina Faso n'a jamais produit le pétrole. Il était obligé de l'importer en grande quantité et à coût de milliards pour alimenter la Sonabel. Alors que pour trouver de l'énergie, il suffit de lever les yeux au ciel. L'énergie solaire représente une solution prometteuse parce que c'est une énergie propre, économiquement accessible et dont le déploiement est rapide. Avec l'électricité solaire, on peut alimenter immédiatement des populations rurales isolées sans attendre le déploiement souvent long et coûteux des réseaux de distribution de l'électricité. Il faut donc décloisonner l'accès à l'énergie solaire pour la rendre accessible à tous, changer de modèle commercial et mettre en place des partenariats publics-privés. Voilà ce que les autorités burkinabées devraient faire.
Mondoblog.org.
C'était le journaliste et mondoblogueur burkinabé Boukari Ouédraogo. Retrouvez-le sur son blog lemessagerdafrique.mondoblog.org. Un mondoblog audio orchestré comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse que je remercie. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, je vous rappelle qu'il est disponible à l'écoute en podcast chaque samedi avant même sa diffusion à la radio. Pour en profiter pleinement, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Vous pouvez m'écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.